RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Regardez pour le direct. Oui, alors, vous m'avez entendu en dehors de l'émission, que j'ai dit « je vais le garder pour le direct ». Est-ce qu'on est en direct, là ? On n'en sait rien. Et indirectement, je ne sais pas si on est dans le direct. Mais me direz-vous, on s'en fout. Le principal, hein, c'est qu'on vous entend, qu'on vous écoute. C'est ça, le principal. Alors, là-dessus, je vais quand même vous lire. Alors, bon, il y a un de nos copains, hydropathe, hein, Franck... comment ? Franck Tremoulinas. Oh, il y a un nom... Bon, c'est beau, Tremoulinas, vous vous rendez compte ? C'est quand même mieux que « Mêliez-vous de ce qui vous regarde », hein ? Bah oui, quand même. Et alors, je lui ai fait une mise en page d'un livre qui retrace la vie de tous les hydropathes du club, de notre club, depuis 25 ans, hein ? Même ceux qui sont malheureusement disparus, hein ? On les a quand même mis dans le livre. On avait quand même au moins la photo d'eux. Hein. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris pour Émile Goudeau. Donc, le président des hydropathes, mais de 1879. Et voilà, vous allez voir le texte que j'ai écrit pour la résurrection de mon club, puisqu'au final, c'était mon club, moi, Émile Goudeau. Hein. Ouais. Et alors, la bonne blague, c'est qu'il s'appelait Émile Goudeau. Il ne buvait pas d'eau. Et alors, il a été voir Boileau. Et Boileau, il a dit, non, moi non plus, j'en bois pas. Vous voyez, comme quoi, hein. Les poètes et les écrivains, ben oui, c'est des mecs qui n'aiment pas l'eau. Bon. Hein. Mes petits. Vous pensez que je vous appelle mes petits ? Moi, Émile Goudeau, je suis un vieux raboté avec mes 157 ans. 157 ans de savoir que les petits gars de Périgueux me remettent en selle et en prose après un siècle passé dans ce cimetière Saint-Vincent, envahi par des vers qui n'ont même plus le mot, d'ailleurs. Hein. Sachez que depuis mon absence, je purge une lourde peine, celle d'avoir fait trop de parisianisme, et vous avez bien raison de me le reprocher. Périgueux, ah, cette bonne ville qui m'a vu naître et qui me fait renaître, alors que je ne mérite toujours pas. Mes amis, soyez remerciés de m'avoir remis sur les rails de la poésie, alors que mon chemin n'était pas de faire une carrière dans votre ville. Alors, comme cela, vous avez repris le nom des hydropathes. Et j'ai une place. Ben oui. Combien allez-vous me verser pour avoir utilisé mon nom sans autorisation ? Je sais que le poète du colère n'a pu s'empêcher de me faire ce tour de couillon, hein, en me propulsant de nouveau dans le monde des bons vivants. Et en plus, rue de la Sagesse, dans ce lieu que l'on nomme à l'Arnotte. C'est marrant, quand on sait que je m'appliquais à foutre le bordel avec les hydropathes dans un Paris académiquement morne. Jeannot, c'est bien comme ça que tu t'appelles, hein, au fait, et tes palmes. Tu t'en sers encore pour naviguer entre deux vers qui n'ont rien d'un goût d'eau ? Bon, allez, je reviens à cette affaire de droit d'image. En échange de mon silence, j'aimerais bien que vous me fassiez une petite toilette. Juste un petit rafraîchissement de cette pierre qui est tombée sur mon ventre depuis un siècle. Il paraît que votre nouveau président indique le lieu, la date et l'heure de ses poèmes. Quelle idée ! C'est encore un original, ce petit l'esprit hydropathe, hein ? Il me fait penser à Alphonse Allais et à Coquelin Cadet, qui trouvaient toujours que la vie sentait un peu trop la guimauve et le balai de coco, quand ce n'est pas celui des latrines. Vous avez, au travers de cette exposition, rassemblé mes copains les hydropathes, mais mon petit doigt, devenu presque squelettique, me dit que le père Aristide Bruand y est encore présent. Celui-là, normalement, il avait boudé notre cercle parce qu'il se croyait supérieur à nous, avec ses chansons qui sentaient le pavé. Il faut toujours un trouble-fête dans la fête. Enfin, c'est vous qui voyez maintenant, hein. Bon. Allez, mes petits, soyez gentils de fermer la porte avant de repartir. Car les courants d'air me dessèchent encore plus maintenant. Car ça fait un siècle que je me traîne sur le boulevard des Allongés, dans un Paris plein de mots et de pollution verbale, comme trou de balle. La chute est pas mal, hein ? C'est du style de mon copain, Alphonse Allais. Émile Goudeau, président des hydropathes de Paris. président des Hirsutes, réellement écrit par le nouveau président des Hydropanes de Périgueux, Maurice Mellier. Voilà. Vous voyez, vous pouvez prendre la place d'un mort, pourquoi pas. En plus, ils sont toujours d'accord, hein. Ils gueulent pas, ils disent pas, non, non, je veux pas. Là-dessus, on est tranquille, hein, là-dessus. Alors, bon, attention, ils ont des descendants, hein, bon. Une fois qu'ils remontent à la surface, mais oui. Alors attention, ça, c'est pas bon non plus, hein. Bon, les descendants. Ben, j'aime que les remontants, moi. Oui, par exemple, un petit gin tonic, un petit cognac, vous voyez, ça, c'est des remontants. Bon, allez, la prochaine fois, je vous lirai la vie de Vercingétorix. Oui, parce que des fois, je prends la place de Vercingétorix. Ouais. Ouais. Parce que j'habitais pas loin, à Alésia. La porte d'Alésia, j'habitais. Alors c'est pour ça que je me prenais pour Vercingétorix. Bon, alors ceux qui connaissent bien leur histoire de France, ils ont compris. Et ceux qui n'ont pas compris, ils ont qu'à me téléphoner, je leur expliquerai. Ou alors, ils ont qu'à regarder dans un livre d'histoire, à la page 10, à peu près, où on parle de César et de Vercingétorix. Hein. Voilà. Prenez pas la première page, c'est la préhistoire. Et prenez pas la centième page, c'est De Gaulle. Hein? Donc, le juste milieu, c'est la dixième page, à peu près, pour tomber sur Vercingétorix. Alors, figurez-vous que j'ai travaillé doublement. Ouais. J'ai fait à la fois un poème et une recette de cuisine en même temps, figurez-vous. Et après, bon, une fois que la recette de cuisine était faite, je ne savais plus quoi faire. Alors, ben, je l'ai mangé, et vous allez voir, ça en a fait un poème. Et c'est récent, hein. Ça remonte à vendredi dernier, hein. 12h30, bah tiens, pratiquement une heure et demie après mon émission d'ici sur RLP, vous voyez, hein. Je ne sais même pas si, quand je suis parti du studio, si je n'avais pas envisagé de faire cette recette. Il se pourrait bien. Parce que j'étais dans un supermarché, j'ai acheté de quoi faire cette recette. Oui, ben bien sûr. Allez, bon. L'agonie des Tartares. Oh, vous auriez vu ce massacre. Incroyable. Malgré quelques précautions, avec mes gardiens armés protégeant les Tartares, le massacre fut inévitable. Oh. Les olives vertes, de peur et séparées de leur noyau dur, entouraient les Tartares comme un bouclier imprenable. Les cornichons ont préféré se séparer en petits morceaux afin de faire un grand cercle de protection autour des Tartares en laissant les petits oignons blancs s'interposer entre eux. La couverture aérienne fut assurée par les jaunes d'œufs et la mayonnaise, ce qu'on croyait imprenable. Soudain, un ogre arriva avec sa fourchette à quatre branches bien acérées et tenta de faire une ouverture sur le flanc gauche des Tartares. On sentait la peur s'installer autour des Tartares. Pensez donc, l'ogre, de surcroît barbu et chevelu, attaquait de front ses remparts soi-disant imprenables. Les olives tentèrent l'impossible, ainsi que les cornichons. La protection au-dessus s'effondra en laissant couler le jaune d'œuf et en entraînant la mayonnaise avec lui. Que faire pour sauver les Tartares? L'ogre se savait déjà vainqueur malgré la résistance. Ce fut un véritable massacre. Au bout de quelques secondes, l'ogre planta sa fourchette acérée au cœur des Tartares. La panique augmenta en dispersant les olives et les cornichons qui tentaient de s'enfuir. Un petit rempart de tomates s'était éloigné depuis le début, mais voyant ce massacre, elles décidèrent d'agir et s'approchèrent du conflit. En n'en rien de temps, la fourchette les envoyait au fond de la gueule de l'ogre. Puis le reste des combattants prirent le même chemin, tout en se défendant. Mais la supériorité de l'ogre fit le reste. Le combat dura 10 minutes. Puis ce fut le désert sur ce champ de bataille, juste avant le dessert. Juste une fan de tomate qui indiquait la fin de cette bataille sanglante. Car les Tartares, rouges de peur, pensaient s'en sortir avec ses protections venant d'autres horizons culinaires. Voilà. Vous vous rendez compte? Quel massacre! Et j'en suis l'assassin. D'un coup, je me suis aperçu, après avoir mangé et écrit, que c'était moi le coupable. Oui, vous vous rendez compte? J'aime les Tartares, pourtant. Donc je ne devrais pas leur faire de mal à ces gens. Hein? Bon, ils n'ont pas toujours été gentils, hein, les Tartares. Hein. Je peux vous dire qu'ils en ont foutu le bordel. Hein. Hein? Avec Gengis Khan, avec son fils, son petit-fils après. Je ne sais plus comment il s'appelait, un siècle après, il a foutu le bordel comme son oncle. Non, comme son grand-père. Oh. Et moi, qui arrive là-dedans et qui casse tout avec ma fourchette, je serais obligé de recommencer parce que j'aime ça. Je vois pas pourquoi je m'interdirais de foutre le bordel chez les tartares. Hein. Voilà. Vous voyez comme quoi la poésie et les arts culinaires vont bien ensemble. Voilà. Hein. Bon, allez, on va passer à autre chose. Tiens, on va se radoucir un petit peu avec du Victor Hugo. Encore que, hein, bon. Et alors, il a écrit quelque chose en 1831. Ça s'appelle « Le poète s'en va dans les champs ». Alors, c'est vrai que ça pourrait paraître champêtre. Hein. Non, j'ai pas dit que... Mais Jacqueline, j'ai pas dit qu'il pétait dans les champs. J'ai dit champêtre. C'est pas pareil. Bon. Écoute bien quand je parle. Bon. Tu es la seule auditrice qui m'écoute pas bien. Voilà. Le poète s'en va dans les champs. Il admire. Il adore. Il écoute en lui-même une lyre. Et le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs, celles que des rubis font pâlir de couleur, celles que les pans même éclipseraient les queues, les petites fleurs d'or, les petites fleurs bleues, prennent pour l'accueillir, agitant leurs bouquets, de petits airs penchés et de grands airs coquets. Et familièrement, car cela sied aux belles. Tiens, c'est notre amoureux qui passe, disent-elles, et plein de jours et d'ombre et de confuses voix, les grands arbres profonds que vivent dans les bois, tous ces vieillards, les ifs, les tilleuls, les érables, les saules sont tout ridés, les chênes vénérables, l'orme au branchage noir, de mousse appesantie, comme les ulémas, désolé, je ne sais pas ce que c'est comme plante, comme paraît le mufti. Alors le mufti, est-ce que c'est le prêtre musulman? Je ne sais pas. Hein. Je ne pense pas, ça doit donner un nom, parce que Victor Hugo, il n'a jamais été dans les pays arabes. Bon, alors. Lui fonde des grands saluts et courbe jusqu'à terre leur tête de feuillet et leur barbe de lierre. Contemple de son front la sereine lueur et murmure tout bas. C'est lui le rêveur. Voilà, c'est pas beau ça? C'est vrai que un poète qui part dans la nature comme ça, qui s'arrête devant une petite fleur, qui s'arrête devant un petit papillon qui est posé sur une fleur, même une abeille, hein, il entend au loin, il entend la pie, hein. Un peu plus loin, il entend le tracteur diesel. C'est beau, c'est joli, c'est merveilleux. Il y a de quoi faire un poème, quand même. Hein. Bon. Alors là-dessus, on va retrouver Ike et Tina Turner dans Goodbye. Sacrée époque, hein, Tina Turner. Ah. Et alors son mari, Ike, elle l'a quitté parce qu'il la battait. Vous vous rendez compte? Normalement, c'est au batteur. C'est pas au chanteur ou au guitariste de battre. Hein? Bon, faut déconner, non, quand même. Alors, Claude Mercutio. Le titre de son livre, c'est « Né d'un tango inconnu ». C'est beau, hein? Là, on ne sait pas ce qui se passe, là. « Né d'un tango inconnu hein? ». Est-ce que c'est la gonzesse qui a dansé un tango avec un poète hein? Est-ce que c'est le contraire? C'est une poétesse qui a dansé avec un gonze? Un bonze, pardon, un gonze, oui. Hein? On ne sait pas. Bon. Enfin, il est né de ça, lui. Voilà. Il ne dit pas qui c'est, quel tango, hein? Non, il ne dit pas. Bon, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Pas tout. Je vais vous lire un poème qui était écrit en 1990, à 4h20 du matin, un vendredi 23 novembre 1990. Sans que je le sache, on met la même chose à la fin de nos poèmes. Vous voyez ? Même l'heure, vous voyez, il met l'heure aussi, lui. Et je ne le connaissais pas. Hein. Ce bouquin, d'ailleurs, quand il l'a sorti, je ne l'avais pas encore vu. Je l'ai vu une fois, un salon de poésie, on va dire une soirée poésie plutôt, ce n'était pas un salon. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance, à Saint-Albert. Poème au vent. Si je pouvais laisser, ne serait-ce un seul poème aux hommes derrière moi, une voix qui murmure la douce mélopée de tendresse et de paix, la suave harmonie, comme un parfum d'automne, odeur d'herbes mouillées, de feuilles frissonnantes, en fuite des beaux jours vers d'autres horizons. Chuchotis indistincts mêlés au vent frileux, dont les premiers soupirs gonflent les jupes des filles, décoiffant leurs cheveux sous le clair soleil froid. Que poussière de mots et ces bribes de phrases, jetées ici en vrac dans cette nuit glaciale, dans l'hiver de ma couche trop vaste et solitaire, font dans mon sommeil en un bel assemblage de couleurs chatoyantes. Que mon âme dès lors, s'estompe et se dissolve, dans l'odeur d'un sous-bois, dans le tapis roussi, annonce la torpeur et l'engourdissement prélude au long hiver. Je revivrai ainsi dans les chants des oiseaux, au retour du printemps, ce poème peut-être s'envolera au vent. C'est beau, hein? Je pense que le poème s'est envolé au vent. Ah oui, lui c'est trop beau pour qu'il reste dans son livre. Hein. D'ailleurs, je referme le livre et je suis sûr qu'il va disparaître, il va s'envoler, sûr. C'est un peu chiant, parce que ce qu'il veut dire, c'est si je veux le relire dans 6 mois ou dans 1 an, il ne sera plus là. Bon, ben, je vais vous laisser comme ça. Hein. C'est la vie. Bon, allez, passons un petit peu quand même à Maurice Meilliez, quand même. Et c'est quand même lui qui fait l'émission, non? C'est quand même lui qui a le droit de lire ses poèmes, non? Alors, là, j'ai un poème que j'ai écrit. En fait, j'ai commencé le 19 janvier 2003, et j'ai fini le jeudi 1er mai 2003. Voilà. Alors j'avais commencé à 9h20 du matin, et je l'ai fini à 22h53. Mais bon, pratiquement, 2-3 mois après. Hein. Ouais. 61 inventaires. Alors notez bien, parce que si dans cet inventaire vous avez besoin de quelque chose, notez-le sur un bout de papier, après vous me le réclamerez. Hein. D'accord ? Et je vous dirai le prix. Bon, vous savez, mon inventaire n'est pas cher, moi. Deux femmes à barbe, dont une rasée de près. Alors, si vous n'en voulez qu'une, il faut me dire si vous prenez celle qui a barbe ou celle qui est rasée de près. Hein. Bon, n'oubliez pas. Hein. Une démocratie retardée par la RTT. Un balai pourvu d'un poil d'intelligence. Ça, c'est vachement utile pour balayer. Hein. Ça va chercher les petites miettes là dans les coins, parce qu'il les voit, c'est le poil d'intelligence qui voit tout ça. Hein. Un radical à gauche dans l'assiette du bateau. Bon, ça, je ne sais pas si je pourrais vous vendre un truc pareil. Hein. Un printemps des poètes à Noël. Oh, oh. Un cheval mal freiné par un palfrimeur. Une balise diplomatique à essorage. La main d'un franc-maçon sans sa ruelle. Une jante féminine rechappée. Une femme sandwich à la mayonnaise. Alors ça, je veux bien, ça, j'ai... Dans mon frigo, j'en ai 3 ou 4, si vous voulez. Hein. Mais je les vends une par une. Hein. Bon. Un corps inoccupé par ma présence. Ça, je ne peux pas le vous vendre, puisqu'il est inoccupé par ma présence. Hein. La queue devant les WC des dames. Alors ça, c'est à vous, messieurs. Hein. de faire ça. C'est pas aux dames, c'est à vous de faire ça, la queue de, devant les WC des dames. Hein? Bon. Un traversin en dehors des clous. Alors ça, bon, vous faites ce que vous voulez. Hein? Un sorbet à la choucroute. Que c'est bon. Oh, j'en ai... Là, je peux vous en vendre, c'est pas un problème. Un blastophaga fille-mère. Ça, c'est un truc exceptionnel. Vous n'en trouverez ailleurs que chez moi. Un crayon qui fait mine de ne pas écrire. Ça, je vous le conseille pas. Le locataire d'un pavillon de complaisance. Bon, enfin, c'est un marin. C'est un marin, bah, bien sûr. Bon. Une crème fouettée jusqu'au sang. C'est parce que elle est fouettée jusqu'au sang parce qu'elle est rouge. Parce qu'ils ont mis des cerises dedans, ils ont mis un tas des framboises, des érelles, voilà. Alors, une fois qu'elle est fouettée, on dirait du sang, ouais. C'est bon, hein. Faut manger les yeux fermés, hein, surtout. Ouais. Alors, un pinceau en poil de Marthe Richard. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Marthe Richard, bon. De l'hémocopine et de l'hémorragie. Non, hémorragie, pardon. Oh. L'émotion et les mots susurés puis censurés. Un genou qui battait de l'aile. Oh, c'est beau à voir, voyez ça. Un corps trempé dans de l'oubli à 12 degrés. Ça aussi, j'ai essayé, ça marche. Un facteur franchissant une boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il fout à ce sorcier-là dans une boîte de nuit, un facteur, hein? Bon. Une route amoureuse d'un nid de poule. Ah ça, j'en connais beaucoup, hein. Il y en a énormément. Un parking réservé aux non-voyants. Mais oui, Jacqueline, ça existe, alors. T'as jamais vu, toi, quand tu rentres dans les parkings? Surtout les parkings souterrains, parce qu'il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas besoin de voir. Tu comprends? Bon. Un plafond en particules de sécurité sociale. Alors ça, tout le monde peut en avoir, hein, c'est gratuit. Hein, ça, il suffit d'aller à la sécurité sociale. Un lave testicule pour nain adulte. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, hein, bon. Un concours de lancer de circonstances. Bah oui. L'autre jour, j'ai fait le concours, j'ai gagné. Ouais. Un tournoi d'essorage de serpillière humide. Alors, attention, quand vous essorez votre serpillière, faites attention parce que l'eau, il ne faut pas la mettre n'importe où, hein, l'eau de l'essorage. Hein. Attention. Un saint pris à l'abordage par un cancer. Oh, ça, j'aime pas. J'aurais même pas dû le mettre, ça. Mais c'est ma grand-mère qui m'a dit de le mettre parce qu'elle a eu un cancer du sein et voulait être tout près dans ce texte. Vous vous rendez compte? Oh, je ne pouvais pas lui faire... Il fallait bien que je lui fasse plaisir à ma grand-mère, quand même. Une allée de manivelle et un retour de doute. Une histoire sans passé et un avenir sans histoire. Une rumeur mise en sourdine puis en boîte. Alors ça, c'est à Marseille. Hein. Là-bas, ils mettent les sourdines en boîte, ouais. Un mandat rectoral mal introduit dans l'urne. Alors ça, vous en pensez ce que vous voulez. Hein. C'est votre problème, hein, c'est plus le mien. Hein. Non, je ne regarderai pas. Non, démerdez-vous. Un candidat isolé urinant le long d'une urne vide. Bah, il n'avait pas le choix, hein, il n'y avait pas de pissotière dans le... Un avortement d'oreille de nain silencieux. Une prise de position à bout de bras. Un plein de câlins sans les mains. Je ne sais pas comment on fait, si, avec la bouche. Et un téléphone sans fils utérin. Vous vous rendez compte, hein? Une main courante le long de ses reins. Une pile bavarde, mais pas cafeteuse, hein? Oh non. Un sac de toile de chez Vuitton. Une cerise sur le gâteau. Un chien de Galles qui ne se gratte pas. Un chat d'Égypte qui n'aime pas le rat. Un soleil qui mange de la viande bien cuite. Une cuite mémorable, mais vite oubliée. Un oubli tellement mémorisé qu'il s'en souvient. Se taire, hurla le bavard, alors que la terre hurlait de se faire taire, ce bavardage inutile, parce que la vie n'avait pas à se vanter d'être belle pour tout le monde. Depuis lors, la lanterne ne se fait plus, car manque de buvard pour en tenir la mémoire. Voilà. C'est beau, hein? Un vrai discours, là. Je verrais bien, tiens, les futurs candidats à la présidence de la République prendre mon livre de poèmes, comme ça, et faire leur discours avec un de mes poèmes. Mais ils seraient tous vainqueurs. on aurait 17 présidents de la République. Vous vous rendez compte? Donc, il n'y aurait pas besoin de ministres. Bah, 17 présidents de la République. Si vous comptez le nombre de ministres qu'il y a, ils sont tous ministres de quelque chose. Hein, vous voyez, comme quoi, un poète, ça a des idées. Hein. Mais après, il faut les mettre en application, mes idées. Hein, parce que là, sinon ça ne marche pas. Hein, je ne suis pas d'accord. Hein. Allez, tiens. Oh, parole. Oh, c'est beau, ça. Ben oui, si je dis parole, il me reste 4 minutes. Donc j'ai la parole pendant 4 minutes. Parole. Cet amour si violent, si fragile, si tendre, si désespéré, cet amour, beau comme le jour et mauvais comme le temps. Quand le temps est mauvais, cet amour si vrai, cet amour si beau, si heureux, si joyeux et si dérisoire, tremblant de peur comme un enfant dans le noir, et si sûr de lui, comme un homme tranquille au milieu de la nuit, cet amour qui faisait peur aux autres, qui les faisait parler, qui les faisait blêmir, cet amour guetté, parce que nous le guettions, traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié. Parce que nous l'avons traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié, cet amour tout entier. Si vivant encore et tout ensoleillé, c'est le tien, c'est le mien, celui qui a été cette chose toujours nouvelle, qui n'a pas changé, aussi vraie qu'une plante, aussi tremblante qu'un oiseau, aussi chaude, aussi vivante que l'été. Nous pouvons tous les deux aller et revenir, nous pouvons oublier et puis nous rendormir. Nous réveiller, souffrir, vieillir, nous endormir encore, rêver à la mort, nous éveiller, sourire, rire et rajeunir. Notre amour reste là, têtu comme une bourrique, vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, bête comme les regrets, tendre comme un souvenir, froid comme du marbre, beau comme un jour, fragile comme un enfant. Il nous regarde en souriant et il nous parle sans rien dire. Et moi, je l'écoute en tremblant. Je crie pour toi, je crie pour moi, je te supplie pour toi, pour moi et pour tous ceux qui s'aiment et qui sont et qui ne sont pas aimés. Oui, je l'écris pour toi, pour moi et pour tous les autres, que je ne connais pas d'ailleurs. Reste là où tu es, là où tu étais autrefois. Reste là, ne bouge pas, ne t'en va pas. Nous qui sommes aimés, nous t'avons oublié. Toi, ne nous oublie pas. Nous n'avions que toi sur la terre. Ne nous laisse pas devenir froids, beaucoup plus loin de toujours et toujours où. Donne-nous signe de vie, beaucoup plus tard au coin d'un bois, dans la forêt de la mémoire. Surgis soudain, tends-nous la main et sauve-nous. Voilà. C'est pas beau? Eh ben c'était du Prévert, ben oui, c'est une bonne blague. Bon, je crois qu'on a fini. Ouais, il reste une minute? Bon, alors, j'allais dire Marguerite, non, Jacqueline. Comme quoi, tu vois, il y a peut-être une Marguerite qui va pas tarder à venir. Bon, c'est joli, Marguerite. En plus, j'avais une vieille tante qui s'appelait Marguerite. Ouais. Et à Grand-Fort-Philippe, là, près de Dunkerque, au bord de la mer. Et elle me faisait... Alors, j'y allais là-bas parce que j'avais des problèmes de décalcification des eaux. Ouais. Et tous les jours, j'allais me foutre dans la flotte avec du sable. Même quand il faisait pas beau, là, elle cherchait de l'eau de mer qu'elle mettait dans la baignoire et elle me trempait dedans pour que j'puisse absorber dans mon corps l'iode et consolider mes os. C'est beau quand même. Hein. Elle a fait un sacré boulot, la vieille tante. Bon, je vous laisse là-dessus. Méditez là-dessus. Bon, Jacqueline, non, ne me fais pas de steak tartare aujourd'hui. Non, j'en ai pas besoin. Ça va comme ça. J'en ai mangé un. On va pas en manger tous les jours. Allez, je vous embrasse toutes et tous.